RMC.
Here is the commissioner of the NBA, Adam Silver.
With the first pick in the 2023 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Victor Wembanyama.
Basket time.
C'est que la draft, c'est qu'un début, c'est pas du tout l'aboutissement.
Kylian Vérov.
Le français dont on va vous parler aujourd'hui est loin d'avoir le profil type du basketteur tel qu'on en a l'habitude. Notre ovni du jour a deux rêves. La NBA, évidemment, mais aussi la NASA. Lui, l'élève modèle passionné d'astrophysique, et tout porte à croire qu'il pourrait bien réussir à tutoyer les étoiles. En commençant par rejoindre la Grande Ligue en étant drafté le 25 juin prochain, plongez avec nous à la découverte de Maxime Reynaud.
Reynaud steals it away. Showtime!
Reynaud thought about the three. Now down the lane!
Reynaud, this would be a big three, and he's got it! First time in his career with 30.
Maxime Reynaud gets behind the defense.
Stojakovic blocked by Reynaud. He chased him down.
Reynaud, oui, oui! Three for three from deep.
Pour en parler avec moi de ce phénomène Maxime Reynaud, celui qui chaperonne d'une main de fer, mais toujours dans un gant de velours, la cellule basket de RMC, Félix Gabory. Salut Félix.
Salut Kylian, salut tout le monde.
Tout
salut
va
Thomas.
Bien.
Oui, ça va très très bien. Ouais, tout, on a toujours hâte de cette draft qui arrive à grands pas là.
Bien sûr, et puis on a pas mal de prospects à vous présenter. Et puis en parlant de velours, évidemment, Thomas Breton du Média Envergure qui a rempilé pour un nouvel épisode. Salut Thomas.
Salut Félix, salut à tous. Ravi d'être là une nouvelle fois.
Messieurs, on évoquera le côté atypique de Maxime Reynaud un tout petit peu plus tard dans cet épisode, mais commençons par le basket.
RMC Basket Time, le profil du prospect.
Après Nolan Traoré, dont on a parlé dans le tout premier épisode, qui est d'ailleurs évidemment disponible sur toutes vos plateformes, allez l'écouter juste après celui-là si ce n'est pas déjà fait. Félix, on s'attaque cette fois à un grand gabarit.
Ouais, un grand gabarit qui vient de fêter ses 22 ans début avril, ce qui fait presque lui un ancien par rapport au prospect de 18 ou 19 ans qu'on va présenter un petit peu plus tard ou qu'on a déjà présenté avec Nolan Traoré. Donc tu l'as dit, c'est un très beau bébé, environ 2m15 pour 110 kilos. En taille, c'est à peu près du Rudy Gobert ou du Chet Holmgren, tout simplement. On est sur un pur poste 5 et surtout un pivot moderne qui, malgré sa taille, est extrêmement mobile et très adroit au shoot extérieur, qui est donc capable de s'écarter.
Avant d'aller sur son style de jeu, tu as parlé de son âge. Évidemment, c'est un détail qui est un peu rare quand même pour être souligné dans une draft. Il est sans doute l'un des plus âgés d'ailleurs de cette cuvée, et sans parler des Français, mais en globalité. Est-ce qu'on est sur un inconvénient, messieurs Thomas?
Non, je pense pas. On a de plus en plus de prospects vieux, notamment avec le Covid qui a permis une cinquième année en NCAA. Donc on a beaucoup de joueurs qui sont arrivés en NBA à 23-24 ans. C'est important notamment de voir la courbe de progression au-delà de l'âge. Reynaud a 22 ans, il sort de 4 saisons, il a toujours progressé avec Stanford. Il est passé de 4 à 8 à 15 à 20 points par match cette année. C'est un des meilleurs joueurs du pays. Et notamment avec les nouvelles règles du CBA en NBA, on cherche de plus en plus de contributeurs pas chers, notamment pour les équipes qui veulent être compétitives. Donc je pense pas du tout que l'âge est vraiment un point noir pour Reynaud. Je pense que c'est un joueur qui arrive prêt, avec des bonnes années dans les jambes, mais qui est prêt à contribuer en NBA assez rapidement.
Et puis Félix, on peut aussi dire que il a entre guillemets l'avantage d'être un pivot. Les pivots qui ont cette atteinte à maturité un peu plus tardive que les autres postes, ça aussi ça peut l'aider à contrebalancer peut-être son âge un peu plus avancé que les autres.
Oui, c'est clair, ça joue son poste de pur pivot, pur poste 5. Après, moi, je pense que c'est un inconvénient d'être si vieux, entre guillemets, d'avoir 22 ans pour être drafté très haut. Parce que, évidemment, en fait, t'es plus proche de ton plafond. Et donc, en fait, t'es moins excitant pour les scouts. Parce que tu sais que t'auras pas une marge de progression phénoménale comme quand t'as 18 ou 19 ans. Mais par contre, ça peut être très bien pour être drafté, on en reparlera tout à l'heure, mais fin de premier tour, parce qu'au moins, les franchises qui vont te prendre ont des certitudes. Savent à quoi s'attendre, ont pu regarder tout ce que t'as fait au fur et à mesure de ton parcours universitaire. Et là, t'arrives en NBA, quand t'es Maxime Reynaud, t'es quasiment un produit fini. Et on l'a vu sur le dernier exemple en date, moi je pense notamment à Dalton Connect, donc c'était pas du tout un pivot, mais aussi un mec qui est arrivé à 22-23 ans en NBA. Il est arrivé chez les Lakers en début de saison, dans un rôle clair, net, précis. Il a eu du temps de jeu sur la première partie de saison. Et donc voilà, c'est ça l'avantage quand t'as cet âge-là.
Un produit fini, Thomas, mais quel produit fini? C'est quoi son style de jeu à Maxime Reynaud?
Reynaud, je dirais du coup que c'est un pivot de 2m15 qui bouge bien offensivement et qui possède un arsenal offensif assez complet, tout en ayant une bonne compréhension du jeu. Il est habile techniquement, il sait finir proche du panier, sait shooter à l'extérieur, il sait poser la balle et passer le ballon. Donc je mettrais vraiment en avant sa polyvalence offensive qui est vraiment assez impressionnante pour un joueur de 2m15.
T'es d'accord avec ça?
Ouais, clairement, même à 3 points. Cette année, je me suis noté, il était à 35% à 3 points en prenant un volume de tir assez important. Il prenait 5 tirs par match à peu près. Donc clairement, on est sur le pivot moderne par excellence.
Et puis, est-ce qu'on peut quand même parler de mobilité? Parce que 2m15, on peut avoir peur que ce soit un petit peu un lourdeau, mais une bonne mobilité quand même.
Non, il est mobile et même, on le voit, il est très à l'aise sur les rebonds offensifs parce qu'il est aussi, il a un QI basket, un sens du placement. Non, pour le coup, il est mobile. Il a d'autres points faibles qu'on peut énumérer si tu veux, notamment en termes de protection du cercle, en termes de défense, de gestion du contact, de manque de verticalité. C'est plutôt ça, moi, qui m'inquiète, entre guillemets, avec lui, enfin, qui sont clairement un des axes de progression. Il est mobile, mais il manque de verticalité et de rudesse, au contact.
Comment est-ce qu'on fait quand on fait 2m15 et qu'on a une envergure telle pour ne pas s'imposer en défense, Thomas?
Je pense qu'il a progressé déjà cette année, je trouve, au compte, il a vraiment doublé ses chiffres, donc c'est vraiment souligné. Et c'est pas quelque chose qu'on lui demandait toujours, on lui demandait vraiment de rester au sol. Il a pu dire en interview de vraiment wall up, monter les bras pour essayer de contester sans provoquer de fautes. C'est notamment un joueur qui provoque très très peu de fautes. Mais comme vous le dites, je trouve que c'est un joueur qui s'impose pas assez dans la raquette. En fait, je trouve pas que ce soit un défenseur qui fasse vraiment peur et qui inquiète quand on arrive au cercle, qu'on arrive assez facilement à lui finir dessus. Il encaisse pas excessivement bien le contact du haut du corps, du coup c'est plus aisé pour les porteurs de balles de venir finir sur lui en prenant contact sur son buste. Donc vraiment un point à progresser au niveau de la protection de cercle, pardon, même s'il est assez long, il est assez mobile, donc ça lui permet quand même de gêner de temps en temps, mais c'est vraiment un point à surveiller pour son adaptation NBA, oui.
Mais qu'est-ce qu'il faut améliorer du coup pour réussir à être à faire peur? Tu disais faire peur. Qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive à améliorer dans son jeu défensif pour réussir à faire peur tel qu'un Rudy Gobert a pu faire peur dans ses grandes années, Thomas?
Moi, ce qui me gêne dans sa défense, au-delà de sa protection de cercle, c'est plus son placement, notamment sur une défense de pick and roll. Il est souvent dans un entre-deux assez bâtard, je trouve. Soit il recule trop et donc il va se faire exposer au pull-up du porteur de balle, soit il monte un peu trop et va être exposé au lob. Donc je trouve qu'il y a un petit peu des errances dans ses placements défensifs qui lui permettent pas d'optimiser sa longueur et donc sa protection de cercle potentielle. Donc pour moi, s'il arrive à optimiser son placement, il aura du coup de facto une protection de cercle qui va aller en s'améliorant avec l'expérience et les années qu'il va avoir en NBA.
Est-ce que vous avez noté d'autres points d'amélioration ou d'autres points faibles même peut-être chez Envergure du côté de Maxime Reynaud, Thomas?
Offensivement, même s'il arrive très bien à finir les deux mains, je trouve également qu'il a pas toujours, comme en défense, cette habilité à finir au contact. Il a encore du mal du fait de sa puissance à bump un peu dans son défenseur pour aller au-dessus de finir. Du coup, il génère notamment beaucoup de tirs assez compliqués, beaucoup de flotteurs pour un pivot, c'est pas toujours le cas. Même si on voit des pivots comme Hartenstein du côté d'OKC qui arrive à en faire une spécialité. Donc il a un très très bon toucher, mais il n'arrive pas toujours à l'optimiser en prenant ce contact avec la défense.
Mais en fait, c'est ça. Il a d'excellentes mains et ça fait peut-être un petit peu oublier ce manque de rugosité en attaque également. Tu parlais de sa capacité à marquer de très loin, de loin. Il est le seul big man de 2m10 qui plante autant à 3 points dans sa catégorie avec minimum 5 tentatives par match, tu le disais. Ça, par contre, c'est un gros point fort pour la NBA actuel, Félix.
Ah bah clairement, en 2025, d'avoir un poste 5 qui est capable d'écarter les défenses à ce point-là, ça fait de lui une cible majeure pour beaucoup de franchises qui cherchent ça dans leur roster. C'est plutôt rare d'avoir un poste 5 qui présente à la draft, qui présente déjà ça. Donc non, ça fait de lui vraiment un petit bijou à aller chercher pour beaucoup de franchises qui ont besoin de stretcher un peu les défenses. Donc non, ça c'est ce qui va lui permettre de taper dans l'œil des scouts, enfin ce qui lui a permis de taper dans l'œil des scouts clairement.
D'accord avec ça, Thomas?
Clairement, c'est un joueur qui a beaucoup progressé sur son 3 points ces deux dernières saisons. Son volume a vraiment explosé, comme vous l'avez dit, il prend plus de 5 tentatives par match. Sa réussite au lancer également, donc c'est très important au niveau du toucher, comme tu l'as dit. Ça se transcrit également dans ses finitions, main droite comme main gauche, il a vraiment de superbes hooks. Et c'est vraiment ce qui a fait de lui cette année un potentiel prospect du premier tour. C'est vraiment cette faculté à écarter les défenses, à être capable de tirer derrière la ligne à 3 points avec une bonne régularité. Et donc on peut penser qu'avec son toucher, il va continuer de progresser. C'est vraiment le shoot, peut-être la chose sur laquelle il est le plus facile de progresser quand on a déjà un bon toucher. C'est vraiment beaucoup de répétitions, passer des heures et des heures et des heures au gym à continuer de progresser sur son shoot, sa polyvalence au niveau du shoot, savoir tirer en mouvement, etc. pour les pivots. Donc non, il est vraiment très très intéressant sur des situations de pick and pop pour punir les défenses qui vont drop sur lui.
Comme dans chaque épisode, on va essayer de faire des petits comparatifs. Maxime Reynaud, un joueur NBA qui vous fait penser à Maxime Reynaud. Félix, je te laisse commencer cette fois.
C'est pas facile parce qu'il n'y en a pas énormément. Moi, j'en ai trouvé un. Et du coup, il a peut-être ce joueur-là que je vais dire. Mmh. Je tease un petit peu. Il a un avis un peu péjoratif dans l'imaginaire des gens.
Oui.
Je vais te parler de Luke Cornett. Il me fait un peu penser à ce gars-là, mais un peu moins atypique dans. Parce que voilà, Luke Kornet, il a côté un peu mascotte, il court de manière un peu voilà, désarticulée. Donc un peu moins dans ce sens-là, mais vraiment dans le sens du poste 5, grand, qui peut être très fort en attaque, très utile déjà, avec et très bon au shoot extérieur, avec des points d'amélioration sur la défense. Donc moi, ça me fait penser un peu à Luke Kornet, au bon côté de Luke Kornet.
Thomas, est-ce que tu es d'accord avec ça et à qui est-ce que tu l'aurais comparé de ton côté ?
J'avais noté deux noms de mon côté, j'avais noté Luke Kornet également, et je pense qu'il faut, pour revenir sur ce point, il ne faut pas sous-estimer les joueurs qu'on peut même moquer parfois. Luke Kornet, c'est vraiment un super joueur NBA, il montre que c'est un super backup dans une des meilleures équipes NBA. On l'a vu contre les Knicks, il a fait un match où c'était un des meilleurs joueurs sur le terrain en pesant cette contre, donc c'est vraiment un joueur très très intéressant, et si Maxime Breno arrive déjà à devenir un pivot backup d'une très très bonne franchise NBA, ce serait déjà une énorme réussite pour sa carrière. Donc vraiment, Luke Kornet, c'est déjà un très beau nom à être comparé. Et sinon, en pivot âgé qui a réussi à shooter et à porter cette année en playoff, je pense également à Quinton Post du côté des Warriors, qui est arrivé à 23-24 ans cette année en NBA et qui a su directement apporter dans une équipe de playoff avec son shoot. Et Maxime Breno a beaucoup plus de talent offensif qu'un joueur comme Quinton Post. Il est beaucoup plus capable de poser la balle au sol, de prendre des décisions balle en main. Donc je pense que c'est un joueur plus complet, plus polyvalent que Quinton Post, même si ce dernier était un peu plus spécialiste au niveau du shooting, qui est un très particulièrement apprécié chez les Warriors.
RMC Basket Time, le parcours du prospect.
On enchaîne, on continue de vous présenter Maxime Reynaud dans ce nouvel épisode de Basket Time. Maxime Reynaud qui se présente à la draft 2025, évidemment. Il a eu le temps d'en accumuler de l'expérience, Félix.
On l'a un petit peu dit, il fait figure un peu d'ovni dans le basket. Il a débuté dans les clubs parisiens de la région parisienne. À 17 ans, en 2020, il intègre le centre de formation de Nanterre. Chez les Espoirs de Nanterre, il est coéquipier d'un certain Victor Wembanyama. Avec le futur numéro 1 de la draft, il fait notamment sensation lors d'un 2 contre 2 face à Rudy Gobert et Vincent Poirier. La paire Wembanyama-Reynaud est loin d'être ridicule et la vidéo, elle a fait un petit buzz hein, sur les réseaux sociaux. Vous l'avez déjà, peut-être déjà vu passer.
Pas loin de 10 millions de vues. Pour ça.
Ouais, ouais, non, mais vraiment, ils avaient fait leur petit buzz. Parce qu'à l'époque, ils avaient 17 ans et ils se sont mesurés à Rudy Gobert, Vincent Poirier, qui étaient des intérieurs déjà au niveau élite. En 2021, après une saison en espoir à Nanterre, Reynaud, il a son bac en poche au lycée Henri IV, donc un des meilleurs lycées de Paris, ce qui fait comprendre un petit peu à quel genre de mec on a affaire. Il s'envole avec ce bac mention très bien vers les États-Unis et s'engage avec l'université de Stanford en Californie. Il passe 4 saisons en NCAA, ses stats grimpent d'année en année jusqu'à peser 20 points, 10 rebonds de moyenne cette saison. C'est tout simplement le seul joueur à afficher une telle ligne de stats en double-double dans le championnat universitaire. Il a empilé les récompenses la saison dernière, il a été élu dans le meilleur 5 de sa conférence, il a été finaliste du trophée Kareem Abdul-Jabbar, qui est un label décerné au meilleur pivot universitaire. Et voilà, maintenant, il n'attend plus que son arrivée sur la grande scène de la NBA.
J'ai envie de commencer d'ailleurs avec ce côté atypique qu'il caractérise si bien, ce double cursus, cette volonté de poursuivre coûte que coûte ses études, sa réussite aussi, évidemment, tu as parlé de son bac à Henri IV, il a aussi validé un diplôme secondaire en maths et un diplôme principal en informatique avec spécialisation en intelligence artificielle. En plus de ça, il a refusé de quitter Stanford à la dernière intersaison pour d'autres universités. Il a même déclaré « On m'offrait 1,7 million de dollars pour une saison. Une université m'a même donné un chèque en blanc pour mettre le montant que je voulais, j'aurais multiplié mon salaire, mais il y avait aussi le réseau et le diplôme à Stanford. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi sur lui, selon vous ?
Ça veut dire que déjà, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est la vérité, c'est une tête bien faite dans un corps bien fait. Ça veut dire aussi qu'il a les pieds sur terre, qu'il sait ce qu'il a envie pour la suite de sa vie professionnelle ou de sa carrière. Ça veut aussi dire qu'il n'avait pas une pression monstre sur les épaules d'absolument devoir réussir dans le basket. Il avait un plan B, et un plan B qui a clairement un très très bon plan B. Donc voilà, ça veut dire beaucoup de choses sur lui, et je pense que ce côté de... il arrive là, il se présente à la draft et on va le dire après, il a une hype qui monte petit à petit. Lui, il pouvait exister en dehors du basket. Donc s'il arrive dans le basket, c'est parce qu'en fait, c'est là où il sera le meilleur et qu'il pourra vraiment faire quelque chose. Donc ça dit énormément de choses et ça veut dire que voilà, on est sur un mec qui en a beaucoup dans la tête qui peut réussir à intégrer la NBA, ce qu'il faut en magasin pour réussir à gérer cette pression d'une première saison NBA, de début dans la grande ligue. Donc voilà, ça veut dire que du positif sur lui.
Et puis s'il n'y arrive pas, il finira à la NASA, Thomas, on est d'accord ?
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment un point positif pour lui. On le voit en interview, c'est quelqu'un de très posé, très carré, parle très bien, français comme anglais. Il a vraiment tout pour réussir et les salles scouts seront ravis de l'entendre dans les interviews, notamment qu'il y a eu au combine la semaine passée. Donc ça va vraiment être quelque chose de positif dans son dossier, je pense.
Personnellement, j'ai beaucoup de respect quand même pour ce contre-pied-là. J'ai l'impression que c'est quand même assez rare de se focaliser également sur ses études à un niveau tel qu'on arrive à faire un double diplôme exceptionnel. Est-ce que vous ne pensez pas, tu parlais que c'est bien pour la tête pensante, etc., mais est-ce que ça n'a pas pu le desservir au niveau des scouts, le fait qu'il ne rejoigne pas une université, qu'il soit une université star, le fait qu'il se focalise pas à 100% sur le basket, mais qu'à côté, il continue à fond ses études. Thomas, t'en penses quoi ?
Je pense qu'au contraire, ce côté très carré dans ses journées, très organisé qu'il a pu montrer, va plutôt le mettre en avant. C'est quelqu'un qui a dû lier le basket à des études de très haut niveau, donc on voit qu'il a une certaine facilité pour lier les deux, vu que c'est vraiment pas évident. Et on passe pas de 5 à 20 points de moyenne en 4 années si on croule sous les devoirs de maths. Donc il a vraiment taffé énormément tous les étés, toutes les années pour progresser. Et on en voit les résultats d'année après année. Je pense que le terrain parle pour lui de ce côté du terrain.
T'es d'accord, Félix ?
Ouais, et ça peut aussi potentiellement, Maxime Reynaud, devenir une coqueluche hein, des médias, aussi bien américains que français. S'il commence à performer sur les parquets, avec tout ce qu'on a dit sur lui, sur son parcours, ça va clairement devenir comme on dit un peu nous dans le jargon, un très bon client à avoir dans les médias, ne serait-ce que par sa capacité à très bien s'exprimer, par son parcours. Voilà, c'est un mec qui a tellement un parcours atypique que si ça fonctionne bien pour lui niveau basket, on peut avoir beaucoup de lumière sur lui. Et de toute façon, je pense que la lumière sur lui, il pourra très bien la gérer vu tout ce qu'on vient de dire à son sujet.
Si on parle du parcours basket maintenant à Stanford, déjà en termes de stats, tu l'as dit, c'était exceptionnel. C'est top 10 des meilleurs scoreurs du pays. En plus, c'est le seul à être en double-double, tu l'as dit. Les nombreuses distinctions, on peut difficilement faire mieux sur le plan personnel, Félix ?
Oui, difficilement. Après, il n'était pas là pour ça, hein. C'est que du bonus d'aller chercher toutes ces distinctions. C'est bien d'aller prendre ces distinctions parce que, comme on l'a dit, il est vieux, entre guillemets, il a 22 ans, il n'a pas toute la hype d'un mec de 18 ans, que peut avoir un mec de 18 ans. Lui, il a pu sortir un petit peu du lot cette saison en allant chercher ces distinctions ou tous ces défis statistiques. Voilà. Au moins, ça lui a permis de sortir du lot. Donc, c'était que du positif de faire cette grosse saison-là. En début de saison dernière, en début de cette saison-là, et même il y a quelques mois, on ne parlait pas de Maxime Reynaud autant dans les mock drafts. Donc, voilà, cette dernière saison, même en étant vieux pour se présenter à la draft, on voit qu'il a très bien fait de l'affaire et voilà, très bon choix.
Thomas, est-ce que c'est efficace sur le plan personnel, tu trouves aussi ?
Ouais, non, je suis complètement d'accord. Il a fait vraiment une superbe saison sur le plan personnel et également collectif. Je trouve qu'ils ont vraiment fait plutôt une bonne saison du côté de Stanford, d'une équipe qui n'était vraiment pas du tout attendue, qui a changé de conférence. Donc non, c'est vraiment une superbe, superbe saison pour Maxime Reynaud. Franchement, il enchaîne, il fait que progresser. Donc non, vraiment, tout est ouvert pour lui, franchement.
Je vais être un peu négatif. Comment on explique qu'il soit aussi loin placé, Thomas, dans les mock drafts ?
L'an passé, après on l'attend de plus en plus au premier tour, sa cote est toujours plus en train de monter, il a fait un très bon combine, il a été bien mesuré, en interview je pense qu'il performe, il a été un des meilleurs joueurs sur les matchs du combine, il a sorti une performance à 20 points qui a fait parler d'elle. Je pense que, normal, 22 ans, il a des limites défensives, on l'a dit, donc je pense que c'est pas du tout déconnant de le voir attendu entre la 20 et 30, 35e place. Je pense que vraiment c'est une place très très intéressante pour lui, tout le monde ne peut pas truster le haut du tableau, c'est normal.
Ouais, moi je te dis, Kylian, moi je pense que ce qui fait qu'il est aussi loin au premier tour, c'est juste son âge. Je pense que Maxime Reynaud, là il a 18 ans ou 19 ans, il a ce profil-là.
Il fait 20-10
ouais, franchement,
saison,
on en parle autrement et je pense qu'il est au moins dans le top 15. Là, c'est vraiment juste son âge, mais sinon, et peut-être un peu ses lacunes en défense, mais ouais, sinon il n'y a rien d'autre. Hein.
Surtout qu'en plus de ça, on a l'impression il a enchaîné les équipes de France jeunes, il a fait médaille d'argent à l'Euro U16, il n'a pas pu faire la Coupe du Monde du 17, du coup il a fait l'Adidas Next Gen Tournament, il a brillé, il a fait ses saisons en espoir, il a fait médaille d'or à l'Euro U20. On a l'impression qu'il a brûlé aucune étape en fait.
Non, il y allait step by step et ça lui a réussi, mais comme dans son cursus scolaire et universitaire, il a brûlé aucune étape. Et en plus, on a un peu parlé de son duo qu'il formait avec Wembanyama, je l'ai dit tout à l'heure, à Nanterre. Il y a eu quelques mois quand ils étaient tous les deux au centre de formation à Nanterre, où en fait, dès qu'on allait au Palais des Sports Maurice Thorez, les deux c'était un peu les inséparables, ils étaient tout le temps ensemble. Ils étaient, en plus, ça faisait vraiment les deux tours jumelles là, comme ça, qui étaient tout le temps ensemble. Et lui, il n'a pas été tenté de brûler les étapes pour suivre son grand copain Wembanyama. Il aurait pu se dire, même s'il n'a pas le talent et que ce n'est pas un talent générationnel comme Wembanyama, il aurait pu se dire, bah voilà, mon grand pote avec qui j'étais tout le temps, avec qui j'ai grandi, j'ai évolué niveau basket, il est parti en NBA, je devrais le suivre. Non, il a fait son parcours, il a suivi son chemin à lui, et son chemin à lui qui devrait là l'amener en NBA à recroiser, à recroiser son pote Wembanyama dès le mois d'octobre prochain.
Puisque tu en parles de Wembanyama, Thomas, du coup, on est d'accord qu'il en souffre absolument pas de cette surexposition de Wembanyama, lui qui a grandi avec lui, etc. On pourrait croire que parce que Wemby a surperformé, a été number one, first pick, on pourrait croire, bah tiens, il souffre, il empathie de ça. On n'est pas du tout là-dessus.
Non, pas du tout. C'est pas la même draft, c'est pas les mêmes attentes, c'est vraiment pas comparable. Je pense qu'un joueur comme Rizaché, l'an passé, avec son statut de premier pick, aurait pu en pâtir, mais franchement, avec un joueur comme Reno, il n'y a pas du tout de comparaison à faire. C'est vraiment un autre monde, donc il n'y a pas de souci pour moi.
Mais est-ce que dans l'imaginaire collectif, il n'y a pas énormément de pression sur les drafts, les Français draftés cette saison par rapport à... On a eu deux drafts exceptionnels avec deux first picks. Est-ce que cette saison, on se dit, punaise, le premier Français, il va arriver 20e, c'est pas terrible, alors qu'en fait, ça veut absolument rien dire. On est d'accord avec ça, Félix?
On retourne dans une sorte de normalité ouais. En fait. C'est les deux années qu'on vient de vivre au niveau de la draft qui était complètement ahurissante. Mm-hmm. Et voilà. Là, on retourne dans ce qu'on a connu les années d'avant, avec un gros réservoir et une sorte d'homogénéité au niveau des talents français qui se présentent à la draft. Mais ça changera rien, parce qu'en fait, on a eu... Si des mecs là, qui sont draftés 15, 20, 25 tombent dans une franchise et au fur et à mesure des saisons, réussissent à performer à l'image de mecs comme Evan Fournier, comme Rudy Gobert, on reprend ces exemples-là, même si tu vas plus tôt, tu reprends du Nicolas Batum, ça c'était drafté au premier tour. Donc on va retomber là-dedans, mais voilà, on aura le temps de le dire avec tous nos épisodes, c'est pas parce qu'ils sont pas top 5 ou top 10 qu'ils ont pas un très bel avenir en NBA.
C'est ça, mais c'est bien de le rappeler. Parlons de la draft justement, à quelle position est-ce que Maxime Reynaud il pourrait être appelé? Thomas, vous chez Envergure, vous le placez à peu près à quelle position?
On le place un peu au tournant du premier et du deuxième tour, donc vers les places 30. C'est un joueur qui est en train de gagner de la cote, comme on l'a déjà dit plusieurs fois dans cette émission. Il sort d'un très gros combine, il performe en interview, donc je le vois bien essayer d'aller gratter son premier tour et de se rapprocher des places 20-25.
Félix?
Ouais, entre 25 et 30. Avant, il y avait un gros doute pour savoir est-ce qu'il allait réussir à intégrer ce premier tour. Là, je pense que vu ce qu'il est en train de faire, il est en train de marquer les esprits là, sur les drafts combine et sur toutes les interviews. Je pense que là, on peut... Enfin, ça serait une petite déception s'il n'était pas drafté au premier tour, clairement.
À l'heure où on enregistre cet épisode, les Français sont un petit peu en train de grimper dans les derniers mock drafts. Pour faire un petit état des lieux, Maxime Reynaud, chez Yahoo Sports, c'est 23, c'est la meilleure position. Chez The Athletic, c'est 42. On est très variant avec une moyenne de la 32e place. On verra ce qu'il en est pour notre ami Maxime Reynaud. Kyle Smith, son coach à Stanford, a déclaré « Je serais surpris que San Antonio ne regarde pas son profil de près. Ils ont un Français important sur place. Je leur en ai parlé. » Vous me voyez venir, évidemment. Est-ce qu'on peut imaginer le duo Wemby-Reynaud reconstitué à San Antonio, Félix?
Ça dépendra, parce que pour l'instant, San Antonio, au premier tour, ils ont donc le pick 2 et le pick 14. Mmh. Je ne les vois pas aller chercher en 14. Sauf si tu peux aussi très bien faire des trades, aller prendre un pick 25, et voilà, et pour en prenant un autre joueur à côté. Évidemment.
Mais est-ce que tu as envie de l'idéaliser? Est-ce que tu as envie de voir ça?
Ouais, bah, clairement. En plus, tu réunirais le duo de Nanterre. San Antonio peut avoir besoin d'un backup au poste 5. Donc c'est vrai que ça coche quelques cases. Après, là, j'ai pas sous les yeux le second tour de la draft. Je crois que les Spurs ont des picks aussi. Ou alors, de toute façon, les Spurs, ils ont plein de trucs en magasin. Ils ont des picks pour les années d'après. Donc s'ils veulent Maxime Reynaud, clairement, qu'on se le dise, ils peuvent aller le prendre. Sans monter en 14, mais voilà, ils peuvent monter des trades de picks, de trucs comme ça pour aller chercher. Et évidemment, nous, Français, on signe mille fois.
Thomas, t'aimerais voir ça, cette association aux Spurs?
Forcément, avoir des contingents français en NBA, ça fait toujours un peu rêver. Voir des Bilal avec Sarr du côté de Washington, voir un Maxime Reynaud avec un Victor Wembanyama du côté des Spurs, ça ferait également cliquer sur l'équipe pour les deux joueurs, même potentiellement être alignés en même temps sur certaines line-up. Donc ça ramène toujours un peu de hype, mais je pense pas que ce soit foncièrement nécessaire à sa carrière. Il s'épanouira bien ailleurs sans problème.
Si on se jette dans un monde idéal, on y va pour la dernière question de cet épisode qui sera un petit peu un gimmick. Dans quelle franchise est-ce qu'il faudrait qu'il atterrisse pour s'épanouir encore une fois, pour être à son aise dans cette première saison NBA et pour potentiellement devenir un pivot influent dans les prochaines saisons? Je commence par toi, Félix.
Pour aller jusqu'au bout de la comparaison avec Luke Kornet, j'ai envie de te dire Boston, qui va pique en 28e et 32e position. Tout simplement parce que c'est une franchise structurée, bien sous tout rapport, qui lui convient bien. Une franchise très réfléchie, donc, du basket académique. Donc voilà, je trouve que ça fit très bien. Sinon, je m'étais noté aussi, pourquoi pas, Orlando en pique 25. Parce qu'Orlando, ils ont besoin de shoot à 3 points. Et ce que pourrait clairement leur apporter Maxime Reynaud. Et en plus, clairement, d'arriver dans une franchise comme Orlando qui essaye de grimper dans la hiérarchie des franchises à l'Est, ça pourrait être pas mal pour lui.
Thomas, je viens vers toi dans un instant. Juste, j'ai le détail du second tour sous les yeux et San Antonio a un pic en 38. On ne sait jamais.
Pourquoi pas ?
Si personne ne se mouille avant.
Exactement, ça pourrait avoir du sens. Ira.
Thomas, quelle franchise pour Maxime Reynaud ?
Je rejoins Félix sur Orlando, je ne l'avais pas noté, mais je pense que c'est vraiment une bonne idée, surtout avec une équipe qui a beaucoup de défense à lui proposer en premier rideau. Personnellement, de mon côté, j'avais pensé à Houston, une équipe vraiment bien organisée, qui joue le haut de tableau. Je pense que Reynaud peut apporter assez rapidement dans une équipe NBA. Ça serait intéressant de le voir dans une équipe compétitive. Ça permettrait de masquer un peu ses failles défensives, notamment avec des très bons défenseurs sur le porteur de balle qui naviguent bien entre les écrans, comme du Tarrison ou du Amen Thompson. Et ils ont besoin également de shooting derrière des big men comme Alperen Şengün ou Steven Adams qui ne shoot pas du tout à 3 points. Et je trouve qu'il fit bien avec l'équipe, même au niveau de la mentalité. Personnellement, j'ai eu la chance de le voir au U20 à Héraclion il y a 2 ans. C'est vraiment un joueur très vocal, c'est vraiment un vrai leader sur le terrain, un vrai chien vraiment sur le terrain. Donc c'est vraiment très très intéressant et je pense qu'il fit très bien avec cette franchise.
Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné sur cet épisode. En attendant la date fatidique du 25 juin et de voir ce qu'il adviendra de Maxime Reynaud, n'hésitez pas surtout à aller écouter les autres épisodes de Basket Time. N'hésitez pas aussi à aller checker le taf du Média Envergure sur les réseaux. On vous met toutes les informations en description de cet épisode. Et on se donne rendez-vous très vite pour vous présenter une nouvelle pépite du basket français.
RMC Basket Time.